Merci Xavier, avec passion, avec plaisir, parce que c'est vrai, consacrer une heure de notre vie au bonhomme Claudel, qu'on ne lit plus beaucoup. Il est effectivement admiré par les uns, honni par les autres. Il n'est surtout plus beaucoup lu. Je crois n'avoir jamais, dans ma vie d'inspecteur, jamais vu un seul texte de Claudel dans aucune classe. Donc il y a du travail pour peut-être réhabiliter l'actualité de Claudel, parce que sans brandir l'actualisation des auteurs, pour en revivifier la parole, il me semble que Claudel, je crois que ce n'est pas une formule applicable à tous, est vraiment d'une très grande actualité. Je pense que je vais essayer de vous le montrer ce soir. Je crois que c'est au moment de la très grande mise en scène historique de Vitesse, parce qu'effectivement, Xavier l'a dit, il y a de très grands metteurs en scène. Le seul endroit où je vois Claudel vivant, c'est dans le monde du théâtre, dans les écoles de théâtre, souvent des jeunes comédiens, des jeunes metteurs en scène qui sont tout à fait loin des questions religieuses, spirituelles. Quand ils tombent dans Claudel, ils tombent dans une sorte de passion dont ils ne sortent pas. Mais il y a de très grands metteurs en scène, et nous en avons un à Lyon, c'est Christian Scaretti, qui est au TNP, qui a fait aussi d'assez belles mises en scène de Claudel. Il se définit vraiment comme un claudélien qu'il essaie de servir. Il a été un peu responsable des journées de Brangue. Il a fait une très belle mise en scène de l'annonce faite à Marie. Il y a évidemment le grand Vitesse, et puis Olivier Py, tu l'as cité, d'autres, j'en parlerai, Yves Bonnem aujourd'hui, qui me paraît être un des grands metteurs en scène claudéliens. Et donc je crois que c'était à l'occasion du travail de Vitesse à Avignon en 87 sur le soulier de satin qu'un journal avait eu un peu l'audace paradoxale de dire quoi de neuf, point d'interrogation, Claudel. Voilà, ben je crois que Claudel a une certaine nouveauté qu'il nous faut peut-être recevoir. C'est un massif, Claudel, c'est la grande chartreuse. Alors on ne sait pas bien par quel versant attaquer le massif. Et nous n'avons qu'une heure dix, m'a dit Xavier, donc je suis obligé de faire des choix, donc j'assume les choix un peu subjectifs. Je crois que si au fond, tout à l'heure dans le train, je réfléchissais, mais finalement, si on essaie d'aller un peu au cœur du cœur, parce que vraiment, on peut parler de tas de choses dans Claudel, je crois que c'est la question centrale, la nervure essentielle de son œuvre, de sa vie, c'est la question du désir. Au fond, je crois que Claudel est un homme de désir, et son anthropologie est fondamentalement celle du désir. Voilà, l'homme que nous sommes, c'est ce mystère composé de glaise et d'esprit fait de nous des hommes de désir, et avec ce que ça peut avoir de violent, de sauvage, de forcené, de barré, d'entravé. Et je dirais que si Claudel fondamentalement n'est pas allé vers le roman, mais il est allé vers le théâtre, la poésie évidemment, c'est parce que finalement la question essentielle, c'est celle du drame. Le drame de l'aventure humaine, le drame de l'existence humaine. Et je crois que peut-être pourrais-je vous proposer ce soir un fil conducteur qui serait de voir comment Claudel, au fond, s'est battu toute sa vie contre des prisons. Contre des prisons successives, un peu comme des pelures d'oignons. Peut-être, au fond, lui qui était un... Vous savez, c'est Paul Baudiquet, qui est le grand commentateur de Rembrandt, qui disait « Rembrandt, il a la tripe biblique. Hein, » La tripe biblique. Et je crois que s'il y a un écrivain qui a la tripe biblique, c'est Claudel. Et Bernanos, par exemple, n'a pas la tripe biblique. Bernanos est un grand théologien, mais il n'a pas la tripe biblique. Claudel a vraiment, lui, la tripe biblique. Vous voyez, j'aime beaucoup l'expression tripe, on y reviendra. Avec cette dimension, il faudrait être très charnel. Il a la tripe biblique, et du coup, il y a cette Bible qu'il a lue et qui a nourri sa conversion, et qui, ça c'est assez spectaculaire quand on regarde sa biographie à laquelle il va consacrer les deux dernières décennies de sa vie. Il s'arrête assez vite d'écrire du théâtre et de la poésie pour consacrer les deux dernières décennies. On ne le connaît pas encore, c'est pourtant un magnifique travail. Il y a deux énormes volumes chez Gallimard. Il a passé la fin de sa vie à commenter la Bible, être un commentateur, un interprète presque au sens musical de la Bible, avec des textes absolument magnifique. Je dirais, si on devait chercher dans la Bible quel est son événement biblique qui est un peu le signe de sa vie, ce serait la sortie d'Égypte. Chez Claudel, on n'arrête pas de sortir d'Égypte, et la sortie d'Égypte, c'est une fois pour toutes, bien sûr, c'est un événement historique, mais je dirais, une vie chrétienne ne se fait pas sans arrêt ressortir d'Égypte et finalement revivre la Pâque. Et au fond, l'expérience, l'aventure du désir, c'est un chemin crucifié, c'est un chemin pascal, et Claudel ne va cesser de sortir de prison. Et d'ailleurs, le grand œuvre, la somme, pas théologique, mais la somme théâtrale de Claudel, c'est bien sûr Le Soulier de Satin. Et la dernière réplique du frère Léon dans Le Soulier de Satin, c'est « Délivrance aux âmes captives ». hein, délivrance aux âmes captives. Donc il y a, je dirais, dans l'aventure humaine, quelque chose de captif en nous, et on commence, je dirais, je prenais l'image des pelures d'oignons, à défaire les captivités très extérieures, et plus on avance, et c'est au fond ce que déploie, je dirais, un drame, et c'est ce que d'une certaine manière la vie de Claudel va déployer, plus on intériorise ces prisons d'intérieur dont il faut nous défaire. Donc quelles sont ces grandes, c'est ce qui va un peu baliser ma présentation de ce soir, quelles sont les grandes expériences d'enfermement, si vous voulez, les Égyptes, hein, dont il nous faut sortir avec Claudel et dont Claudel cherche à trouver l'issue pour que justement le désir soit accompli. Vous voyez, c'est vraiment un mot qui est accompli, non pas contrarié, non pas purifié. Il n'aimait pas les protestants parce qu'il les trouvait trop puritains. Donc il ne s'agit pas de purifier, il ne s'agit pas de contrarier, il s'agit d'accomplir. Il y a un travail d'assomption et Claudel n'est pas, vous voyez, celui qui brandit le désir simplement pour dire voilà, le désir c'est bien, parce qu'il en sait toutes les menaces aussi, hein, il en sait toutes les violences, toutes les sauvageries. Mais en même temps, il sent qu'il n'y a pas d'humanité sans cet axe essentiel. C'était sa grande inquiétude au paradis. Il rêvait d'éternité du paradis. Et il disait, mais pourvu qu'au paradis, il y ait quand même encore un peu quelque chose du désir, hein, qu'il y ait encore un petit peu quelque chose du manque, parce que si le paradis, c'est le régime de la satiété, qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc, je dirais la première insurrection, parce qu'évidemment, ces libérations successives, elles procèdent, je dirais, d'un tempérament qui est un tempérament d'insurgé, quoi. Claudel est un être de tension permanente, donc il est à la fois le bon bourgeois catholique et le révolutionnaire qu'il est, il est à la fois un inquisiteur qu'on lui a reproché d'être et puis un anarchiste, il est à la fois les pieds très solidement dans la terre et la tête au ciel. Donc c'est vraiment aussi je dirais sa sensibilité, c'est pour ça que c'est un homme du drame, c'est de déployer sans arrêt ces tensions incroyable, hein, qui vivent en lui. Et donc, la première de ces tensions dont il faut sortir, c'est évidemment celle de son temps, celle de l'époque. Et évidemment, toute biographie de Claudel commence par évidemment évoquer la fameuse conversion de 1886, cette espèce de surgissement d'être qui fait que ce jeune homme de 18 ans, qui n'en pouvait plus de l'asphyxie de son époque, disciple qu'il était, enfin élève de Renan qu'il était, vous savez, il faut se remettre dans le contexte de la fin du 19e siècle, un scientisme ambiant, un positivisme généralisé. Homais, pour relire la fin de Madame Bovary, a reçu la croix d'honneur et au fond, l'existence humaine, pour beaucoup, semblerait ne relever pas d'autre chose que du seul engrenage des lois physiques, biologiques ou sociales. Et il s'agit pour Claudel de trouver, je dirais, une espèce d'issue de respiration, et il va s'agir de s'affranchir, de sortir de cette ambiance de l'époque dont il parle assez bien. Dans une lettre à un de ses amis, il écrit ceci: « Moi aussi, j'ai eu une jeunesse toute semblable à la vôtre, une pieuse enfance, l'infâme lycée avec les infâmes doctrines du jour, la philosophie de Kant et de Renan. C'est ce dernier misérable qui a proféré le plus horrible blasphème qui soit jamais sorti des lèvres humaines, peut-être que la vérité est triste. » Je crois que c'est là aussi, il nous parle un peu de notre temps. « À cette époque, je croyais qu'il n'y avait pas de mystère dans le monde. » Ah, il avait trop lu Zola. « Que tout s'expliquait par les lois scientifiques et que la machine de l'univers pouvait se démonter comme un appareil de tissage. Or, il arriva à ce moment-là, à la Noël de 1886, c'est Claudel qui parle, que j'assistais aux vêpres à Notre-Dame et j'eus la révélation en écoutant le Magnificat, hein, un enfant de la Vierge Marie, quoi, le Magnificat d'un Dieu qui me tendait les bras. Pendant 4 ans, hein, on croit que la conversion s'est faite derrière un pilier, c'est réglé, pendant 4 ans j'eus la force de résister, combat de Jacob, j'en reparlerai tout à l'heure, de résister et de porter, superposé en moi, les idées d'un Dieu que j'aimais et en qui, au-dessus de tous les maux, je croyais de toutes les forces de mon cœur et de ma substance, et en même temps de la parfaite absurdité de ces dogmes et de ces légendes qui venaient ainsi s'imposer de force au misérable petit sot orgueilleux, lamentable et corrompu que j'étais alors. Au bout de 4 ans, le conflit n'avait pas cessé, mais seulement la force en moi de le soutenir. Je me jetais donc à l'eau. Hein, si on faisait une réflexion un peu sur le manager, c'est le terrien qui se jette à l'eau, hein, l'eau qui a la grâce chez lui toujours. Hein. Je me jetais donc à l'eau Je me confessais et je communiais, et dès ce moment, tous les doutes disparurent, et je n'ai pas cessé de croire jusqu'au plus humble iota tout ce qu'enseigne la Sainte Église catholique, unique et infaillible, dépositaire de la vérité. J'ai pu pécher, mais je n'ai jamais cessé de croire à l'amour que mon Dieu a pour moi et à l'indéfectible trésor qu'il a placé entre les mains de ses prêtres. Donc évidemment, c'est l'évocation de sa conversion sur laquelle lui-même, avec beaucoup de résistance d'ailleurs, parce qu'on lui a beaucoup demandé, il a écrit un texte célèbre. Mais évidemment, il ne faut pas imaginer que cette conversion s'est faite de façon un peu simple. Il y a eu ces 4 années de difficultés. Et puis je dirais, tout a été très très mêlé. Je crois que celui, il faut l'évoquer, qui était pour lui évidemment décisif, il parle d'une influence séminale, c'est Rimbaud bien sûr. Parce que dans cette fin de siècle un peu fatiguée, eh bien, la lecture de Rimbaud, d'autres évidemment, il faudrait évoquer Shakespeare, Eschyle, enfin, Dostoïevski, vous voyez, pas tout à fait une source française, j'y reviendrai, mais surtout Rimbaud a eu une valeur décisive. La lecture, dit-il, des Illuminations, puis quelques mois après, d'une Saison en Enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure. La voilà, la prison, une fissure dans mon bagne matérialiste, l'expression est revenue et restée célèbre, dans mon bagne matérialiste, on a guère progressé en un siècle, dans mon bagne matérialiste, et me donnait l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Et ça, c'est ça que les grands écrivains chrétiens du XXe siècle nous donnent. Parce qu'aujourd'hui, même dans le discours de l'Église, plus personne ne parle du surnaturel. Claudel dirait, on s'est un peu protestantinisé, c'est-à-dire on parle de Jésus, des valeurs chrétiennes, etc. Mais qui parle du surnaturel, finalement? Quand vous regardez les textes des évêques, ils sont passionnants, etc. Mais par exemple, qui parle du surnaturel? On peut parler de la mission, par exemple. Alors, dans l'activisme de l'Église, on va nous dire tout ce qu'il faut faire, etc. Qui nous dira, dans un texte d'Église, que c'est Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, qui, au fond, porte la mission par des voies surnaturelles. Et donc, aujourd'hui, il y a, c'est Bernanos qui le dit bien, une sorte, Bernanos, c'est un des grandes voies pour dire le surnaturel. Et je terminerai ma conférence de ce soir pour vous dire comment, ce que j'aime beaucoup chez Claudel, c'est que c'est un grand poète de la communion des saints, qu'on récite dans le credo, mais à laquelle plus personne ne prête importance, tellement on est persuadé que nos vies se règlent de façon un peu individualiste et solitaire. C'est un peu cela, finalement, vers ce vers quoi il va, parce que ce poète, finalement, cosmique, qui rêve le monde comme un grand réseau vibratoire, c'est cette dimension un peu poétique de célébrer le monde, est aussi, je dirais, celui qui constamment entremêle l'assembleur des deux mondes, dit-il, le naturel et le surnaturel. Donc si tout est la symphonie du monde est comme un accord où tout, je dirais, résonne avec tout, et c'est au poète de mettre au jour cette espèce de résonance symphonique, symphonein, c'est aussi parce que surnaturellement, nous sommes en communion profonde les uns avec les autres, et qu'au-delà de ce que nous en percevons, nos destinées humaines sont liées très profondément les unes aux autres. Mais évidemment, vous voyez, pour en arriver là, ça sera au fond le point d'orgue de la révélation finalement du soulier de Satin. Pour en arriver là, eh bien, il a fallu s'arracher à la fin du 19e siècle à ce fameux bagne matérialiste qui était évidemment bien loin de proposer dans le kantisme ambiant, avec la philosophie de Schopenhauer, autre chose qu'une sorte de résignation, vous voyez, on l'a entendu dans ce qu'il disait à son ami, de résignation aux choses telles que les lois les éclairent, les éclairent seulement. Alors évidemment, il lui a fallu, je dirais, pour sortir d'Égypte, il y a toujours un moment de violence, il lui a fallu, je dirais, un peu faire de la casse autour de lui. Et en particulier, il lui a fallu, se désolidariser de l'héritage français, de l'héritage classique, parnassien, bien réglé, avec ça a de la beauté, bien sûr, mais ça n'était pas, je dirais, sa note à lui. Il a toujours détesté les classiques, au fond. Il a une admiration, évidemment, pour le grand Racine, mais il ne se sent pas à l'aise dans l'esthétique classique trop triqué, c'est un baroque qui a besoin que la scène soit le monde, le soulier de Satin, c'est pas l'unité de temps, de lieu et d'espace, ça se joue sur deux continents, ça enjambe deux siècles, et il lui faut, je dirais, la dimension du monde, avant d'être catholique au sens d'être catho. Il était catholique au sens étymologique, c'est-à-dire avec cette amplitude de respiration qu'il lui fallait trouver. Et du coup, il était trop à l'étroit, je dirais, dans l'héritage classique français. Et il lui a fallu, on parle souvent de cela évidemment, trouver une sorte de métrique qui soit appropriée, bien sûr, à ce qu'il cherchait. Et c'est en cela qu'il a inventé, mais il n'est pas le seul, c'est un peu ce qu'a fait, mais dans une toute autre démarche, Saint John Perse, il a inventé le fameux verset claudélien qui d'une certaine manière, s'émancipe de la cadence un peu réglée de l'alexandrin, qui peut tourner vite à la mécanique. Parce que, évidemment, vous voyez bien que c'est un homme de la fin du 19e siècle qui n'est pas très à l'aise avec, je dirais, l'imaginaire mécaniste. Qui veut, d'une certaine manière, à raisonner toute chose de ce monde à des mécaniques ou à de la technique. Donc la métrique de l'alexandrin lui semble être une mécanique qui tourne un peu facilement. Donc il va chercher ce verset pour, je dirais, trouver dans le verset une unité de souffle, une unité de respiration. C'est en cela qu'on a pu dire qu'il était un poète pneumatique. C'est-à-dire où, évidemment, la question de la respiration chez lui est très importante. D'ailleurs, je dirais, sa théologie est une théologie pneumatique. Pas seulement parce qu'il est passionné par l'Esprit-Saint, dont il est qu'il est la respiration du Père et du Fils, mais parce que lui-même dit que Dieu, et Dieu respire. Il fait de Dieu le grand respirateur. Je fais un petit peu ce détour sur la question de la respiration pour ne pas simplement en faire qu'une affaire de métrique et de versification. Dans le livre Totobi, il dit « Dieu est amour, mais l'amour est action. Quelle action ?» Celle même qui fait la vie de la Sainte Trinité et qui la constitue en autre chose qu'un enchevêtrement d'entités philosophiques. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit, et l'Esprit, c'est la respiration. Nous adorons un Dieu qui respire. Donc vous voyez, c'est, je dirais, au cœur même de sa théologie, ce n'est pas simplement une affaire de déploiement métrique. Ou encore, dit-il, les gens légers demandent, les saints dans le paradis, d'un bout à l'autre de l'éternité, qu'est-ce qu'ils feront les saints dans le paradis? C'est toujours un peu l'inquiétude qui est la sienne. Et je réponds, pour ne pas quand même tomber dans l'inquiétude qu'il n'y aura plus rien à désirer, donc plus rien à respirer. Alors il répond, ils seront occupés à respirer Dieu. Et d'ailleurs, il faut toujours entendre chez Claudel un peu d'humour, parce qu'on l'a investi d'être le grand bonhomme catholique, voilà, qui a donné des leçons, grand convertisseur général. Claudel est très drôle, le soulier de Satin, c'est plein de drôleries. C'est un homme qui avait beaucoup de drôleries. D'ailleurs, un jour, il était à Lyon, je crois que c'est dans Saint-Jean, et il voit dans une librairie un de ses livres en vitrine, et de loin, il tressaute parce qu'il voit un bandeau qui le réjouit. Il voit un livre avec un de ses livres en disant « Claudel, grand écrivain comique ». Alors il dit « ça y est, on m'a enfin compris ». Je suis enfin compris quelque part, et il s'approche, et puis en fait le bandeau disait grand écrivain cosmique, donc voilà, il était ramené à cette célébration un peu du monde cosmique. Alors que font les saints? Les saints dans le paradis, je réponds, ils seront occupés à respirer Dieu, et Dieu sera occupé à les respirer, c'est un mauvais programme, à respirer leur âme et à faire passer à l'intérieur de lui-même et eux à leur tour, à respirer son esprit et à le faire passer à l'intérieur d'eux-mêmes. Le Père vit ses enfants et ses enfants vivent leur Père, afin que tous soient un comme mon Père et moi nous sommes un, ego ego vivo, dit le Seigneur, et comme l'apport vivifiant de l'oxygène allume en nous l'intelligence et la volonté, c'est ainsi que l'apport de Dieu, cet investissement intérieur de la divinité, cet épousement en nous, par nous, de ce qui nous crée, allumera en nous la connaissance et l'amour, l'amour de notre cause et l'amour de tous ses frères indispensables autour de nous en qui nous sommes. Un pour l'exploiter et en qui, universel, catholique, nous communierons à chaque dilatation de nos poumons. À chaque dilatation de nos poumons. Donc vous voyez, le verset, c'est vraiment, je dirais, en cohérence avec ce qui est sa sensibilité poétique, théologique. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant quand on voit des acteurs, des jeunes acteurs d'aujourd'hui qui connaissent rien à rien à la Bible, aux bondieuseries, et qui se lancent, je dirais, dans le travail d'acteur avec des textes de Claudel, il leur faut d'abord du coffre, il leur faut du corps aussi. Et puis ils découvrent, parce que c'est souvent un peu ce que fait un acteur, que quand il veut dire un texte, il veut y mettre de l'intention souvent. À l'école, on dirait qu'il faut en mettre le ton. Il met de l'intention. Impossible chez Claudel. On ne peut pas, d'une certaine manière, au contraire, pour dire du Claudel, pour dire le verset claudélien, il faut se mettre en retrait d'une volonté de surplomb du sens, ce qui ne veut évidemment pas du tout dire que ça n'a pas de sens, mais il faut se mettre, quand on est acteur, en retrait de ce surplomb du sens, pour davantage être à l'écoute de ce que l'on dit en le disant. Hein, et c'est souvent, je dirais, ce petit travail que les acteurs ont à faire. Il y a une sorte de conversion dans l'art de dire que Claudel leur donne, hein, de se mettre à l'écoute de ce que l'on dit en le disant, hein, et pour être justement disponible à ce qui passe par cette réalité charnelle et pneumatique et respiratoire du verset. Alors évidemment, Claudel est puisé à la source baroque. Le Soulier de Satin, c'est un drame espagnol, à la source des grands dramaturges espagnols, de Shakespeare bien sûr, de tous ceux qui avaient élargi un peu les portes étroites de l'esthétique française. À ses yeux, évidemment, trop pétriqué, trop corseté, et c'est d'ailleurs la raison aussi, alors c'est pas seulement des raisons d'ailleurs de théologie, même si ce sont des raisons théologiques, que Claudel a été résolument anti-janséniste, hein, pensant qu'il y avait collusion entre le classicisme et le jansénisme, avec une sorte d'articulation entre un choix théologique et un choix esthétique, parce que l'un et l'autre procèdent d'une sorte de volonté d'éliminer le mal. Hein, de purifier, de convertir, de réduire. Or lui, il est au contraire, je vous le disais, dans l'assomption. Il ne s'agit surtout pas de détruire le mal, hein, qui est le rêve finalement des puritanismes dont il se méfiait, mais de le convertir. Hein, c'est la grande exergue du Soulier de Satin sur laquelle je reviens, le fameux Etiam Peccata, hein, de Saint Augustin, attribué à Saint Augustin. Même le mal peut conduire. Donc je dirais c'est un convertisseur du mal, c'est-à-dire qu'il croit que la dynamique, il est thomiste, hein, il est beaucoup plus du côté d'Aristote que de Platon, il est convaincu que tout est bon et c'est l'emploi qu'on fait des choses en nous qui peuvent devenir mauvaises. Donc il y a d'une certaine manière au fond dans le mouvement et la dynamique de l'aventure humaine à convertir le mauvais pour en faire du bon, et c'est ce que d'une certaine manière les jansénistes ne croient pas, et en revanche ils trouvent dans l'aventure jésuite, en lien d'ailleurs avec ce qu'elle a de baroque, évidemment quelque chose qui lui parle davantage. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce jeune homme de 18 ans qui sort de ce siècle un peu épuisé, grâce à Rimbaud et à tout cela, de réussir cette première insurrection et d'installer, je dirais, à jamais dans les thématiques claudeliennes, la thématique du départ. Hein, Claudel est quelqu'un qui est toujours sur le mode du départ, ses héros sont toujours sur le mode du départ, la vie humaine, c'est un peu, on pense aux assis de Rimbaud, la vie ne peut pas s'embourgeoiser dans l'état d'assis, et il faut toujours être en chemin, être un peu l'homme aux semelles de vent, partir, c'est ce que fait Anne Vercor par exemple dans La jeune fille Violaine, ou L'annonce faite à Marie, c'est ce père de famille qui d'une certaine manière est heureux et a tout pour être heureux, et qui sent qu'il est pressé par un désir plus grand qui le fait partir. Hein. Il y a toujours des portes à franchir, et il faut en vérité lancer la quête un peu à la manière d'un Rimbaud. Mais en même temps que je dis ça, je suis prudent, parce qu'on pourrait assez vite retomber dans une sorte de romantisme de l'ailleurs, vous voyez, du voyage, où tout est un peu plus facile ailleurs qu'ici. Et Claudel a toujours été extrêmement méfiant à l'égard de ce romantisme-là. C'est d'ailleurs comme ça que lui, qui était un grand lecteur de Baudelaire, qu'il aimait beaucoup, il corrige la fin de l'invitation au voyage, vous savez, où il y a cette proposition du vers baudelairien de nous plonger au cœur de l'inconnu pour y trouver du nouveau. Et Claudel corrige Baudelaire en disant il s'agit moins de plonger au cœur de l'inconnu pour y trouver du nouveau, parce qu'il sent toutes les illusions qu'il y a dans cette quête-là, plonger au cœur de l'inconnu pour y trouver du nouveau, plutôt que, mais dit-il, mais au cœur du défini pour y trouver l'inépuisable. Hein, c'est tout autre chose. Hein. Au cœur du défini pour y trouver de l'inépuisable. Donc c'est vraiment aussi quelqu'un qui a, je dirais, là aussi on retrouve une tension, la tension de l'ailleurs, il faut couvrir le monde et être catholique pour que, je dirais, tous les continents consonnent et entrent en symphonie. Et d'ailleurs il a choisi un métier qui lui a donné la possibilité de parcourir le monde, parce qu'il a été consul et ambassadeur qu'il était en poste à Washington, à Prague, au Japon, en Chine, enfin au Brésil, enfin il a vraiment été un parcoureur du monde, mais en même temps d'une certaine manière en faisant des rapports pour voir exactement où en était le nombre de sacs de café qu'on allait pouvoir exporter. Donc vous voyez toujours, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est amusé à dire un homme au sommet devant, oui, mais au soulier verni. Hein, et je crois que ça n'aurait pas déplu à Claudel d'être à la fois les deux. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il était quand même alerté sur peut-être l'impasse du départ rimbaldien. Et il a réussi à trouver, je dirais, à être dans ces tensions qui sont fécondes, d'être à la fois l'homme des voyages et l'homme du monde, et en même temps l'homme de l'enracinement. Hein, il savait le prix de l'enracinement et l'art d'être aussi un bon consul, un bon père de famille, un bon bourgeois, parce que, dit-il, je suis quand même toujours un paysan, et les paysans savent qu'il faut quand même veiller au grain et à la boutique. Hein, et d'ailleurs, peut-être ce qui explique au fond que il a eu cette tentation au début de sa vie, c'était un effet évidemment de sa conversion, mais il a eu cette tentation au début de sa vie d'entrer en vie monastique et de choisir d'une certaine manière la clôture. Hein. Donc il a voulu, à un moment, il a fait des essais de vie monastique à Solesmes et à Ligugé. Et puis finalement, ça c'est très intéressant, ça ne s'est pas fait. Et il lui a fallu quand même sentir, d'abord parce qu'on ne l'a pas reçu là-bas, et on a sûrement bien fait, enfin, d'ailleurs, Dieu d'éternité, on n'en sait rien, mais il a du coup été lancé dans sa vie dans le monde, et je trouve que c'est un homme moderne, Claudel, parce que c'est un homme qui est déjà dans l'esprit de Vatican II, parce qu'il a, Vatican II, c'est quoi ? C'est la sainteté universelle pour tout le monde, et pas simplement pour les clercs ou les religieux. Et donc, il a essayé d'entrer dans une vie d'homme, une vie de haut fonctionnaire, d'ambassadeur, de père de famille, en essayant d'en faire un chemin de sainteté. Alors, il ne s'est jamais pris pour un saint, et il ne l'est sans doute pas. Hein. Mais en même temps, il s'est engagé authentiquement dans l'aventure. C'est vraiment chez lui une vocation, la vocation au monde. Hein, donc la vocation au monde, parfois même au mondain, mais avec, je dirais, une très grande lucidité sur le fait qu'il y avait peut-être dans ce chemin-là un véritable chemin de sainteté que Vatican II nous a donné à percevoir comme à part égale de la sainteté plus ordinaire des temps anciens où on pensait qu'elle était réservée aux seuls religieux et aux seuls mystiques. Et c'est pour ça, et ça n'est pas le moins intéressant chez Claudel, de voir comment il a empoigné le réel, ce qu'il appelait la sainte réalité. Hein, donc tout poète cosmique qu'il était, tout grand écrivain et grand dramaturge, ben, ça a été aussi dans l'ordinaire des jours. Et voilà, quelqu'un qui a fait son boulot, qui a rendu ses notes au Quai d'Orsay. D'ailleurs, récemment, quelqu'un a fait un travail sur les notes de Claudel qui existent dans les archives du Quai d'Orsay. Et on s'est rendu compte que c'était pas un mauvais ambassadeur. Hein. Il a, en particulier, quand il était à Washington, il a fait des notes extrêmement prophétiques qui prévoyaient le crack, vous savez, de 1929. Et on voit comment, je dirais, oui, c'était pas un ambassadeur mondain qui faisait une heure le matin pour répondre au courrier et qui consacrait le reste de sa journée à son œuvre. Il a été vraiment engagé très, très authentiquement dans la réalité. Je vous en donne quelques exemples. Il aimait ça, d'ailleurs. Hein. C'est assez intéressant de voir le plaisir, hein, qu'il prend. Et ça n'est pas simplement alimentaire d'être celui qui doit faire son travail d'ambassadeur. Je vous lis ça. C'est vrai, c'est une belle chose, comme saint François, de tout jeter au profit de Dieu et de se débarrasser d'un seul coup, une fois pour toutes, de tous les soucis de la temporalité. Hein, on rêve tous rentrer au monastère et finir avec ses déclarations d'impôts. Mais n'est-ce pas aussi une belle chose, sans qu'un seul moment le sentiment, la pensée de Dieu soit absent, d'assumer le monde tel qu'il est sans récuser aucune de ses charges, famille, métier, service, etc. Et quel etc. fidèle par le cœur jusqu'à la fin pendant 70 ans. Hein, donc vous voyez, là aussi un peu d'humour pour dire à quel point, au fond, tout cela n'était pas tout à fait inintéressant. Ou encore ce petit extrait. Saint-Joseph, parce que évidemment le modèle c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph n'était pas seulement ouvrier, il était forcément homme d'affaires. Il était obligé de discuter, de signer des petits contrats, de poursuivre les débiteurs récalcitrants, de plaider, d'acheter les fournitures au meilleur compte, en spéculant sur les occasions, etc. Toute chose à quoi devait s'entendre ce descendant de David et Salomon, constructeur du temple. L'arche aussi était un travail de menuiserie. Hein, donc, vous voyez, il y a cette espèce de consentement à ce qu'il appelle la sainte réalité et qui lui a donné toujours un art d'être au monde dans ce que le monde a de plus concret et de plus... alors, je vous lis encore une dernière si je la retrouve, une dernière citation. Voilà, parce que ça résume tout. « C'est une joie pour moi, dit-il. » Une joie, là, un mot qui pèse chez Claudel. Hein. C'est vraiment l'homme de la joie. « C'est une joie pour moi de toucher à toutes ces choses bien grosses et bien réelles. Tramway, égout, électricité et l'impitoyable comptabilité. Hein, » Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais eu une espèce de dandysme, de mépris de poète à l'égard de tout ça, parce que voilà, c'est notre façon d'être au monde et d'y œuvrer. Et évidemment, voilà, parce que ça participe chez lui, vous voyez, pourquoi il n'est pas resté chez les moines ? Parce qu'au fond, ça n'était pas l'engagement religieux qui était en cause, c'était le sentiment sans doute d'être séparé du monde. Hein. Claudel n'est pas un homme de la séparation, ça a du sens de se soustraire du monde pour entrer dans le... Mais il ne peut être que dans une compréhension du monde, hein. C'est l'homme de la compréhension au sens étymologique, comprendere, prendre tout ensemble, hein. Ce qu'il a, il a joué de ce mot en parlant du mot de connaissance, hein. Avec une étymologie fantaisiste, co-naissance, être dans une sorte de naissance perpétuelle co avec les choses de ce monde, et c'est en cela que voilà, il a toujours un peu voulu empoigner la terre, et c'est au fond la psychologie des héros, claudéliens, de Tête d'Or à Rodrigue, d'être comme ça des conquérants, hein, qui ont une sorte de convoitise même, hein, de concupiscence. Claudel est un puissant concupiscent qui a dû apprendre à négocier. Le mot ne serait pas déplacé chez Claudel, parce qu'il y a un négoce, à négocier cette espèce de sauvagerie de la concupiscence. Hein. Il voulait vraiment posséder le monde et posséder les femmes, parce que la pâte humaine, il en a la gourmandise, le drame humain, il veut le vivre jusqu'au bout. Et le verbe claudélien, c'est quand on a du Claudel dans la bouche, on en a plein la bouche. Hein, et son lyrisme, c'est pas d'abord un lyrisme comme ça qui roucoule dans les sommets. C'est d'une certaine manière un débordement d'un excès, d'une démesure. Hein. C'est en cela que le mot catholique, pour lui va bien. C'est d'abord une réalité géographique, presque géologique. Il y a un mot qui, avec d'ailleurs les syllabes de sens et toutes les polysémies passionnantes que la langue nous donne naturellement, qui va bien à Claudel, c'est le mot de posséder. Il veut à la fois posséder la terre, il veut posséder la femme, il veut peut-être, parfois il devait être un peu roublard, posséder son interlocuteur, et en même temps c'est tout le drame, et derrière tout ça il y a un enjeu de salut, parce qu'il faut se laisser déposséder justement. Et toute la dramaturgie claudélienne va être cette espèce de combat de Jacob pour, concupiscent et désirant qu'il était, se laisser peu à peu dépouiller, déposséder, et que faire de ce désir qu'il ne va plus avoir, je dirais, à se satisfaire de son objet. C'est tout le soulier de Satan, c'est ça. Hein. Que fait Prouet ? C'est une femme qui va au fond apprendre à quoi sert l'amour. L'amour sert à fournir, Prouet va fournir à Rodrigue une insuffisance à la mesure de son désir. Mais voilà une phrase que notre époque ne peut plus comprendre, parce qu'on croit que le désir, on le réduit à la pulsion, il faut le satisfaire. Voilà. Prouesse est cette femme qui va lui... C'est un peu déjà l'histoire de la princesse de Clèves, mais c'est lui fournir une insuffisance à la mesure de son désir. On ne possède, dit Simone Veil, que ce à quoi on renonce. Une phrase qu'on pourrait mettre en exergue à... Voilà, on ne possède, c'est toujours le même mot, que ce à quoi on renonce. Il va y avoir un incroyable sacrifice à faire, mais en condition de ne pas le faire de façon janséniste, vous voyez, par automutilation. Il y a de la mutilation, mais il faut que ce soit une mutilation par l'assomption du désir et non pas par la soustraction du désir. Alors, dans je dirais, la thématique claudélienne, il y a une sorte de virilité déréglée, hein, qui est évidemment... Alors, je vous ai photocopié quelques textes que vous lirez pour emporter un peu de Claudel avec vous. Vous lirez dans Connaissance de l'Est le texte consacré au port, hein, parce que c'est un texte qui vous dira à quel point il y a une espèce d'intimité avec cet animal et la façon qu'il a d'aller fouiller la terre et cette espèce de sacralisation du porc dans ce qu'il a de charnel, de sauvage, d'organique. Hein. Il y a du Rabelais chez Claudel. Hein. Il y a quelque chose de cela. Il était très méfiant à l'égard de tout un héritage, d'une littérature qui peut arriver, j'en ai parlé. Il détestait la mécanique, au fond. Enfin, il était passionné par des choses qui... Il est passionné par les locomotives, etc. Mais il avait peur que le monde devienne un peu mécanique, techniciste. C'est d'ailleurs sa définition de la poésie. Elle le dit bien. En un mot, la poésie ne peut exister sans l'émotion. Et chez Claudel, c'est pas une petite émotion de surface, c'est ex movere, c'est ce qui vient bouger en nous, nous faire bouger, ou si l'on veut, sans un mouvement de l'âme qui règle celui des paroles. Un poème n'est pas une froide horlogerie, hein. Pas moyen d'être, on peut plus être un parnassien quoi, hein, qui fait tourner ses quatrains et son alexandrin et ses versets. Un poème n'est pas une froide horlogerie ajustée du dehors, ou alors il n'y a plus qu'à versifier sur les échecs ou sur le jeu de billard. Même l'intelligence ne fonctionne pleinement, parce que je crois qu'il aimait bien le mot fonctionner, mais ne fonctionne pleinement que sous l'impulsion du désir. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, autre chose que le modèle mécanique. Eh bien, il reçoit de l'héritage rabelaisien le modèle organique dont le poème le port vous donnera un peu le sentiment. Hein. Alors, avançons en quatre stations, insurrection, incarnation. Hein, on a vu comment il y avait une sorte de conjonction des deux. Je prends des mots, vous savez, le soulier étant écrit en quatre journées. Itinéraire ce soir, on pourrait prendre quatre moments. L'insurrection nécessaire qui nous permet de sortir régulièrement de nos Égyptes ou de nos prisons jusqu'à une sorte d'issue. Ça commence par la fissure dans le bagne matérialiste et ça finira dans la fameuse réplique finale du soulier « Délivrance aux âmes captives ». C'est le salut, hein, que c'est que le salut, c'est entrer dans l'éternité et c'est d'une certaine manière la dernière porte à franchir. Hein. C'est celle-là, bien sûr. Donc, incarnation, insurrection, incarnation, troisième journée, hein, si vous voulez, dépossession. Hein, je vous ai très brièvement, il faudrait parler de Tête d'or, bien sûr. Tête d'or, c'est une pièce, on a dit parfois même un peu fasciste, tellement le héros est un héros déréglé dans sa toute-puissance virile, guerrière, et heureusement, il commence à être barré dans sa trajectoire presque un peu folle, prométhéenne. Hein, il y a une sorte de dimension prométhéenne dans la surrection qui peut être extrêmement dangereuse, extrêmement orgueilleuse, hein, et mettre en danger le salut. Eh bien, qu'est-ce qui vient d'une certaine manière barrer la folie du dérèglement, c'est la femme, c'est la rencontre de la femme. Et Claudel a eu, je dirais, une bienheureuse etiam peccata, bienheureux péché. Il a eu un événement dans sa vie que voilà, tous les biographes citent, c'est la rencontre d'une femme sur le bateau qui l'emmenait en Chine, Rose Vetch, une femme mariée, trois enfants, une passion folle dans laquelle il va se jeter, voilà, parce que oui, c'est un homme de la concupiscence, il s'y jette, il aura même avec cette femme un enfant. Mais évidemment, c'est une femme mariée qui va très vite le laisser. Et donc, il lui faudra des années et des années pour digérer, je prends un mot très, encore une fois, très, très rabelaisien, mais je crois que c'est vrai, pour digérer cette aventure, cette fracture qui est venue, d'une certaine manière, mettre une brèche, mais bien heureuse brèche, parce que c'est cette brèche qu'il a fait qu'il n'est pas devenu le bon bourgeois académicien et qu'il a été toujours, toute sa vie, traversé par cette écharde, hein, dans son cœur, lui aussi, que seul, peut-être, au fond, le soulier de satin va réussir à accomplir. Et à travers toute cette expérience personnelle, au fond, la mystique de Claudel, presque, je dirais, sa théologie, c'est de découvrir que la vocation de l'homme et de la femme, ça, c'est très pas politiquement correct, surtout ministère de l'Éducation nationale, c'est pas exactement la même chose. On était avant le gender, les hommes ont une vocation, les femmes ont une vocation, et la vocation de la femme, au fond, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, empêche les hommes de devenir des guerriers fous, qui ne sont que dans une logique de toute puissance et de possession. Hein, et du coup, c'est devenir, d'une certaine manière, bibliquement presque, un peu contrarié. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lisez Tête d'or et vous verrez qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que la femme barre quelque chose pour accomplir et convertisse, d'une certaine manière, le cœur d'un guerrier en faisant un amant, finalement. Et c'est un peu ce qui va se passer dans l'épreuve. Et là, il entre dans le mystère de la croix, bien sûr, hein, parce que c'est la croix qui est derrière tout ça. D'une certaine manière, au fond, c'est la déroute. Hein, on prend la route, on part, mais vient l'heureux moment de la déroute. Et Roderick, ce magnifique personnage du Soulier de Satin, est un homme dérouté, c'est un homme dévasté. Et c'est là que Claudel découvre, lui-même personnellement, avec son aventure avec Rose Vetch. Alors après, évidemment, il va se marier, il épouse, vous savez, Reine Marie, la fille du constructeur de Fourvière. Il va avoir une vie je crois, heureuse, hein, parce que là aussi, il retrouve l'intérêt de développer son aventure humaine dans le fini de ce qu'est une vie de d'époux et de bon père de famille. Mais évidemment, l'aventure amoureuse de sa jeunesse lui laissera toujours une écharde au cœur. Et c'est la raison pour laquelle il est jésuite. Parce que, oui, je crois qu'il aurait assez aimé notre pape actuel, pas simplement parce qu'il est jésuite, parce que et voilà, il pratique la casuistique, c'est-à-dire Dieu écrit droit, c'est la magnifique exergue du soulier de Satan, Dieu écrit droit par ligne courbe. C'est-à-dire qu'il voit bien que dans nos vies, voilà, il faut se méfier des puritains qui veulent nous faire aller droit, nous faire marcher droit. Ça ne se passe pas comme ça. Et la courbe est la ligne, je dirais, préférentielle de Claudel. Hein, et c'est pour ça qu'il faut le drame et que la tragédie classique, c'est la ligne droite, hein, l'unité de temps, de lieu, d'action. Et que lui a exploré la courbe du baroque, qui est une réalité, qui est une ligne pas simplement esthétique, bien sûr, mais qui est une ligne spirituelle, qui est une ligne théologique. Et donc, c'est ce qu'il va faire avec cette rose vetch en apprenant la courbe, hein, parce qu'il y vient de se convertir, il y croit dur comme fer. Je dirais, la relation à Dieu s'approfondit. Puis voilà qu'au bout de 4 ans, il communie, tout commencerait à aller un peu mieux. Et paf, voilà que quelque chose le met en épreuve radicale par rapport à sa propre foi. Donc, on voit l'expérience du tragique. Hein. Mais justement, Claudel n'est pas un poète tragique, parce que le tragique, c'est quelque chose qui semble ne pas offrir d'issue. C'est un poète dramatique, c'est-à-dire le drame a son issue, a un moment le moyen d'être surmonté. Alors, au fond, ce qu'il s'agit de trouver, c'est l'arrachement à soi, qui est au fond tout simplement le travail de l'amour. Hein. À quoi ça sert que Eros envoie sa flèche là où il n'était pas prévu d'aller? C'est que ça nous sort de nous-mêmes. Et Claudel est quelqu'un qui est violemment arraché à lui-même, à ses convictions, à la vie de bon bourgeois catho qu'il a eu d'ailleurs en même temps, mais il n'aurait pu n'être que cela. Et avec ce que ça a de sauvage, hein. Posséder, c'était pas simplement lui, vous lirez le port, hein. C'est pas simplement avoir une petite aventure. Il dit un jour, j'aime beaucoup ça, Jean-Louis Barrault m'amène une dame blonde, alors voilà, les dames blondes, ça devait quand même, que je ne voudrais pas rencontrer tout seul au coin d'un bois. Hein, c'est pas lui qui craignait la dame blonde, mais c'est plutôt la dame blonde qui aurait eu... Et qu'il prétend être Edwige Feuillère. Bon, plus personne aujourd'hui, sauf les plus anciens d'entre nous, ne connaît Edwige Feuillère. Mais voilà, et avec beaucoup d'humour, il se rend bien compte que... Et d'ailleurs, un journal italien, il aimait beaucoup ça d'ailleurs, hein, l'appelait le gorille catholique. Hein, donc, il était assez fier que le journal italien l'appelle le gorille catholique. C'est vous dire à quel point voilà, il joue de tout cela. Il est très, très conscient de cette dimension, hein, qui est en lui. Et donc, eh bien, je vous l'ai dit, au fond, ce qui va se jouer pour lui, et tout à l'heure, peut-être je mettrai une petite correction à ce que je vous ai dit. Je vous ai la scène biblique qui peut-être servirait de vignette emblématique à toute l'œuvre de Claudel, c'est la sortie d'Égypte. Hein. C'est un homme qui ne cesse de sortir de toutes les Égyptes qui s'empilent dans nos existences pour vivre des Pâques successives. Hein. Mais il y en a une autre qui est le combat de Jacob avec l'ange, hein, qu'il a d'ailleurs beaucoup commenté dans ses commentaires bibliques, parce que voilà, c'est l'homme blessé. Jacob, c'est celui qui se bat contre Dieu, et on ne sait pas si le contre, c'est un contre d'adversité ou un contre d'intimité, de proximité, mais en tout cas, on en ressort blessé. Hein, et on en ressort claudiquant. Et je ne sais pas si c'est la force symbolique des noms que l'on porte, mais c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup valorisé la claudication, hein, qui s'inscrivait déjà comme un programme dans son nom. Sa sœur, d'ailleurs, Camille, boitait un peu. Un de ses enfants, Pierre, boitait. Il y a vu tout de suite comme un signe d'élection. Surchargeait un peu, dès que quelqu'un boitait, ça lui paraissait comme un signe d'élection. Et en tout cas, la claudication, c'est cela. Hein. Alors on pourrait dire la claudication qui reste en nous, c'est comme une sorte de circoncision presque. Hein. C'est l'empreinte que Dieu a marquée, inexorable, d'une sorte d'alliance scellée presque de façon charnelle, pour faire qu'ensuite notre route ne soit pas la route d'un glorieux militaire à sa toute puissance, mais qu'elle soit marquée d'une vulnérabilité que la claudication vient introduire dans le mouvement, dans la marche même. Mais il y a peut-être plus que cela. Il dit ceci, il écrit ceci, « Dans sa lutte avec l'ange, Jacob est revenu boiteux. Il a désormais une différence de niveau entre l'un et l'autre de ses deux pieds, dont l'un n'arrive plus à toucher tout à fait à la terre. » Ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on boite, il y a un pied qui touche à la terre, mais... La tension entre le ciel et la terre, l'assembleur des deux mondes, le naturel et le surnaturel, le ciel et la terre, dont l'un n'arrive plus tout à fait à toucher à la terre. C'est la part du futur qui, en manquant, oblige le marcheur à un continuel porte-à-faux. Chaque peuple, alors il a toujours cette ce raisonnement analogique, hein, on le voit ici, un homme, un peuple. Chaque peuple, en se mettant debout, en prenant conscience de lui-même, apprend qu'il est impuissant par lui-même à garder son équilibre et qu'il lui faut l'appui de tous les autres. Hein, on retrouve cette vision d'un monde où chacun est en lien avec l'autre et qu'aucun ne peut, je dirais, prétendre marcher tout seul. Tout seul, ça ne marche pas. Il faut que ça boite pour qu'il y ait des contrepoints, de temps en temps, des porte-à-faux et des appuis nécessaires. C'est déjà quelque chose de la communion des saints qui se dessine. Et je n'ai pas le temps d'évoquer toutes les figures de claudication, mais peut-être un peu en hommage d'ailleurs à Rimbaud. Il faudra amputer, sera Roderick, qui était vraiment le personnage cornélien de la puissance du conquérant, va être amputé d'une jambe. Hein. Il va finir boiteux d'une certaine manière, radicalement boiteux, et donc c'est de cela dont il s'agit. Et parce que voilà, l'homme est ce composite d'animalité, vous lirez le porc, hein, il y a de l'animalité en nous, et il connaissait la sienne, et puis de divinité. Hein, et nous sommes ce composé instable d'animalité et de divinité, et qu'il y a, alors je vous lirai aussi ce très beau texte, très connu du point de vue d'un homme, parce qu'il écrit du point de vue de l'homme qu'il est, se rajoute quelque chose, ça c'est très biblique, de ce qui est le propre de la puissance virile, masculine, l'animus. Hein, il prend les mots latins alors pour valoriser, c'est le mouvement de l'âme, hein, le mouvement de l'existence. Mais animus a besoin d'être corrigé par la présence féminine d'anima, donc il y a une parabole. Je vous l'ai donné dans les textes qui vous ont été procurés. Une parabole pleine d'humour, d'ailleurs, hein, où il fait preuve d'un certain humour, où il montre, il imagine un couple bourgeois entre animus et anima, et vous verrez d'une certaine manière, au fond, comment Claudel a été toujours à l'écoute de cette part mystérieuse du féminin, hein, qui, d'une certaine manière, est le visage de la grâce, hein, et le visage de la femme, qui vient, d'une certaine manière, permettre l'accomplissement, hein, de la destinée de l'homme et en particulier de la dépossession de soi et de la toute puissance du moi. Le dernier bagne, le premier étant celui de son temps, on a parlé du bagne matérialiste, le dernier bagne dont Claudel essaie de sortir, c'est évidemment le moi, hein, le moi tout puissant avec ses revendications, son caractère très impérieux, et au fond la blessure, hein, qui advient, bienheureuse blessure, c'est évidemment celle qui nous permet de nous déposséder de nous-mêmes, hein, et là il y a l'accomplissement d'un vrai sacrifice qui est au fond ce que réalise, hein, au sens étymologique du mot, réalise le soulier de satin en le déployant, mais en 4 journées, plusieurs heures, et pour dire que c'est long, difficile et compliqué. Voilà, je voudrais terminer par 2 petits textes rapides que j'aime bien. Sur la fin de sa vie, voilà, Jean-Louis Barrault va mettre en scène le soulier de satin. Et donc, ça a été assez douloureux pour Claudel, qu'il a écrit dans les années 30, de le voir, parce que c'est son histoire, c'est, vous voyez, la matrice de son drame qui est là, hein, et comment un homme avance par rapport à ces questions-là. Il écrit dans un texte tardif le commentaire du Cantique des Cantiques, ça fait partie de ce massif des commentaires bibliques auxquels il réserve la fin de sa vie, mais dans lesquels, vous voyez, il met des éléments personnels d'autobiographie, parce que vous voyez, Claudel n'a jamais vraiment écrit d'autobiographie, mais il a d'une certaine manière distillé un peu de l'authenticité de son aventure personnelle dans ses textes. Hein. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un texte comme L'Échange, c'est moins d'ailleurs 4 personnages que, je dirais, une sorte de cantate à 4 voix, où chacun des personnages est une des voix intérieures à Claudel, et il les met en débat et en tension pour faire débattre en lui. Louis Lenz, ce personnage un peu rimbaldien qui veut partir, Marthe qui est la femme justement douce, un peu virginale, compagne, fidèle, Lekiel Bernon qui est ce personnage d'actrice un peu fantasque, et puis Thomas Pollock-Nageoire qui est ce négociateur américain prêt à faire un peu des affaires. Tout ça, ce sont des voix intérieures qui dialoguent, et c'est une pièce assez singulière. dans la dramaturgie claudelienne, parce qu'elle n'est pas dans un déploiement comme les autres pièces, mais une sorte de cantate à quatre voix qu'il a essayé de faire dans cette pièce, donc au demeurant très intéressant, très intéressante. Et alors donc, c'est quand même le soulier de satin qui vient récapituler dans les années 30 ce drame auquel, d'une certaine manière, il donne une sorte de point final dans la capacité d'assomption qu'il donne à cette aventure amoureuse qui aura, vous l'avez compris, marqué sa vie. Et quand Jean-Louis Barrault le met en scène quelques années plus tard, voilà ce qu'écrit Claudel. Je reviens de Paris où l'on m'avait appelé pour la représentation à la Comédie Française du Soulier de Satin. J'ai dû revivre avec une émotion amère et poignante ce drame de mes années méridiennes, tandis qu'un ensemble d'hommes, de femmes, de moyens matériels et la musique conspiraient à lui donner apparence, mouvement et voix devant le public. À la fin, on m'a poussé, vieillard ahuri et trébuchant, devant une salle qui criait je ne sais quoi. Vous êtes content que l'on vous ait montré une pièce où deux êtres appelés vers l'un vers l'autre par les affinités les plus intimes et les plus profondes de leur nature morale et physique, ça arrive, se voient cependant inexorablement séparés par quoi ? Par un sacrement, jumeau de celui de l'ordre, le mariage, et ce sacrement, à l'imitation du lien qui rejoint Jésus-Christ à son Église, il sort de nous. Il n'est pas fait d'autre chose que d'un consentement par nous-mêmes, une fois donné pour toute la durée de la vie, et qu'il est impossible de retirer, tout effort dans ce sens n'aboutissant qu'à la mutilation et au découronnement de ce qu'il y a en nous, non seulement de plus noble, mais de plus substantiel. Hein, ça, c'est la réalité du mariage de Rose Vetch, qui était une femme mariée et sur laquelle il n'a pas pu... Voilà. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient capables de s'unir l'un à l'autre, donc il a une très haute idée sacramentelle du mariage. Hein. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient capables de s'unir l'un à l'autre pour leur salut respectif, au-dessus de la chair, qu'ils soient capables de s'administrer l'un à l'autre pour toute la durée de leur vie terrestre, sa très sainte volonté. Mais, c'est les deux amants qui ne pourront rien d'autre, se donner rien d'autre que leur impossibilité. J'aime beaucoup cette fin, c'est cette fin qui me touche beaucoup. Mais ces deux autres, hein, sous-entendu Prouez et Rodrigue et derrière eux Rose Vetch et le bonhomme Claudel. Mais ces deux autres qui par respect, disons plutôt par, il met le mot en italique, par réalisation profonde du sacrement qui l'un à l'autre les interdit, se sont dit non. L'un à l'autre en cette vie. Est-ce que eux aussi, en un sacrifice sublime, n'ont pas été l'un à l'autre un instrument de salut ? Et c'est là où il n'est pas janséniste pour dire ça, tout ça c'est très mal, il faut couper. C'est mystérieusement, il va aller jusqu'à parler d'un sacrement du nom. C'est magnifique, hein ? L'un à l'autre un instrument de salut. Est-ce qu'avec le secours de la grâce, ils ne se sont pas administrés l'un à l'autre la volonté divine ? Est-ce qu'ils n'ont pas été l'un à l'autre la source d'un honneur, d'une réalisation inextinguible ? Est-ce qu'ils cesseront d'être l'un par rapport à l'autre ? Ça, c'est déjà la communion des saints. Hein. L'un par rapport à l'autre pour l'éternité en position de cause. Est-ce qu'ils n'ont pas ensemble coopéré à leur vocation essentielle ? Est-ce qu'ils ne sont pas œuvre l'un de l'autre ? En un mot, est-ce qu'il n'y a pas entre eux un véritable mariage dont la forme est non pas un oui, mais un non, un refus donné à la chair dans l'intérêt de l'étoile. Et la conséquence bénéfique de ce refus qui est un consentement à l'étoile, ne s'arrête pas aux deux êtres qui ont été participants, il se propage autour d'eux en ondes infinies, les voilà qui sont devenus une source inépuisable d'anneaux. Car le bien compose et le mal ne compose pas. Tristan et Iseux s'engloutissent dans un néant stérile, mais Rodrigue a créé un monde et Prouez a créé Rodrigue. L'amour par-dessus l'océan, entre les deux mondes, a créé un désir et un lien. Hein, je crois que là, vous avez une approche extrêmement belle, poétique, du mystère de la communion des saints. Hein, il va jusqu'à, c'est assez audacieux, je ne sais pas ce qu'en pense le magistère romain sur la doctrine de la foi, mais il va même jusqu'à parler d'un, un poète peut le faire, d'un sacrement du nom, hein, deux êtres qui se sont dit non parce que c'était leur voie d'accès à ce qu'ils pouvaient se donner, se réaliser l'un pour l'autre de plus haut dans leur cheminement. Et c'est toute l'histoire du soulier de satin, et c'est une magnifique histoire. Et donc je voudrais terminer par l'évocation de l'ouverture, le prologue du soulier de satin que je vous ai mise dans l'autre texte, parce que voilà, quand il parle de la communion des saints ou qui se propage autour d'eux en ondes infinies, vous savez, d'ailleurs, il est discret là-dessus, mais Claudel a une sœur bien bien connue, vous connaissez tous la sœur de Claudel, c'est Thérèse de Lisieux. Hein, c'est lui-même qui dit, il parle de Thérèse comme de sa petite sœur, parce qu'en fait, vous savez, là, c'est Jean-François Sic, ça fait un livre intéressant qui s'appelle 1886, c'est une curieuse année. Conversion de Charles de Foucault, conversion de Thérèse de Lisieux, conversion de Claudel. Et Claudel s'amusait de cette année un peu faste pour je dirais, l'alliance que Dieu a voulu sceller avec chacun d'eux. Et il sentait que Thérèse était comme une sœur de conversion. Ils étaient nés, je dirais, la même année. Une sœur jumelle, finalement. Et donc, il y a cette exploration de ces fraternités invisibles. Et ce qui est magnifique, évidemment, c'est la clé du soulier de satin, c'est que si Rodrigue réussit, je dirais, et à quel prix, à parvenir à réaliser l'assomption de son désir, et sans doute quelque chose de son salut, mais pas une dépossession, il finit quasiment comme un pauvre air, défait et dérouté, et c'est pour ça que ça n'est jamais une tragédie chez Claudel, c'est parce que tout ça est déjà porté par quelqu'un. Et je dirais, il y a deux grands écrivains français qui nous permettent d'entrer, parce que les théologiens, moi je m'intéresse pas mal à cette question, je regarde la théologie, elle nous écrit des choses assez plates sur la communion des saints. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, plus personne n'en parle, la communion des saints, on sait à peine ce que c'est, on récite ça dans le credo, mais c'est l'idée qu'il y a du surnaturel, justement, et que nos vies sont liées par des voies qu'on soupçonne un peu parfois, parce qu'on a des affleurements de visibilité, mais quand on retournera la tapisserie et qu'on verra au ciel à quel point nous nous portons les uns les autres et qu'on ne meurt pas pour soi et qu'on ne sait pas pour qui on meurt et on ne sait pas toujours pour qui on vit. C'est Bernanos a montré ça évidemment magnifiquement, mais Claudel aussi. Et donc, il faut être très attentif à l'ouverture, au prologue du soulier de satin, parce que Rodrigue, un peu comme Claudel, avant de devenir, je dirais, le conquérant qui part de l'autre côté de l'Atlantique pour mener son aventure et conquérir les nouveaux continents, il avait, comme Claudel, eu une tentation d'entrer dans les ordres, de devenir jésuite. Et puis, jésuite qu'il aurait été, il aurait pu devenir un missionnaire, comme l'ont été les jésuites au XVIe siècle, pour partir en Amérique du Sud, mener la conquête sous la bannière, le monogramme sacré, Ad Dei Maiorem Gloriam, la plus grande gloire de Dieu et du monde. Et puis, c'est subrepticement dit dans le soulier de satin, on sent qu'il a défroqué, qu'il est parti, qu'il a quitté le comme Claudel, il n'est pas resté. Et du coup, il y a un père jésuite qui, au début du soulier, on le voit, c'est magnifique, dans la mise en scène de Vitesse, c'était le comédien Girard qui venait avec une sorte de barre, parce qu'il part, lui, c'est un missionnaire jésuite qui part en Amérique latine, et le bateau subit une tempête, et le bateau va sombrer par le fond. Et donc, il y a comme une sorte messe, de dernière messe, puisque c'est un sacrifice quasi eucharistique. Il donne sa vie pour son frère Rodrigue. Et donc, d'une certaine manière, avant qu'on commence, je dirais, à entrer dans l'histoire de Rodrigue, il y a ce magnifique texte que je vais vous lire et par lequel je terminerai, où on voit comment le père jésuite pense à son frère Rodrigue, pense à cette fraternité inaboutie au plan humain, puisqu'ils auraient eu vocation à, comme les disciples dans l'Évangile, marcher deux par deux, et il aurait pu aller avec son compagnon sur les terres sud-américaines, et il sait que l'autre est parti, mais dans l'invisible, ils sont liés l'un à l'autre dans le mystère de la communion des saints, et voilà ce que dit au moment de mourir, c'est une sorte de, on est au Golgotha de ce moment où cet homme donne sa vie pour son frère, il dit ceci: « Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché, et parfois il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles, et ma volonté en présence de votre règle, perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis. » Mais il est attaché au mât qui devient comme une croix.
que je ne le suis, et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a pas un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix, mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer, libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau, tout a expiré autour de moi, tout a été consumé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs l'une sur l'autre. C'est des religieuses qui ont été aussi tuées. La vendange, sans doute, ne pouvait se faire sans désordre. Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle. Et je me croyais abandonné, je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi qui me reprend et me remonte avec elle, comme si pour un moment je ne faisais plus qu'un avec le réjouissement de l'abîme. Cette vague, voici bientôt la dernière pour m'emporter. Je prends, je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté, ayant renoncé à la mienne, de ce passé dont avec l'avenir est faite une seule étoffe indéchirable, de cette mer qui a été mise à ma disposition, du souffle que je ressens tour à tour avec sa cessation sur ma face, de ces deux mondes amis et là-haut dans le ciel, de ces grandes constellations incontestables pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas dans la nuit tant désirée. Que la bénédiction sur elle soit celle d'Abel le pasteur au milieu de ses fleuves et de ses forêts. Que la guerre et la dissension l'épargnent, que l'islam ne souille point ses rives et cette peste encore pire qu'est l'hérésie. Je me suis donné à Dieu. Et maintenant, le jour du repos et la détente est venu et je puis me confier à ces liens qui m'attachent. On parle d'un sacrifice quand à chaque choix à faire, il ne s'agit que de ce mouvement presque imperceptible comme de la main. C'est le mal seul, à vrai dire, qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité, se disjoindre à ces grandes forces continues qui de toutes parts nous adoptent et nous engagent. Et maintenant, voici la dernière oraison de cette messe. Que mêlé déjà à la mort, je célèbre par le moyen de moi-même, mon Dieu. Je vous prie pour mon frère Rodrigue. Mon Dieu, je vous supplie pour mon frère Rodrigue. Je n'ai pas d'autre enfant, ô mon Dieu, et lui sait bien qu'il n'aura pas d'autre frère. Vous le voyez qui d'abord s'était engagé sous mes pas, sous l'étendard qui porte votre monogramme, et maintenant sans doute parce qu'il a quitté votre noviciat, il se figure qu'il vous tourne le dos. Son affaire, à ce qu'il imagine, n'était pas d'attendre, mais de conquérir et de posséder ce qu'il peut, comme s'il n'y avait rien qui ne vous appartint et comme s'il pouvait être ailleurs que là où vous êtes. Mais Seigneur, il n'est pas si facile de vous échapper. Et s'il ne va pas à vous par ce qu'il a de clair, qu'il y aille par ce qu'il a d'obscur et par ce qu'il a de direct, qu'il y aille par ce qu'il a d'indirect et par ce qu'il a de simple, qu'il y aille par ce qu'il a en lui de nombreux et de laborieux et d'entremêlés. Et s'il désire le mal, que ce soit un mal tel qu'il ne soit compatible qu'avec le bien, et s'il désire le désordre, un tel désordre qu'il implique l'ébranlement et la fissure de ces murailles autour de lui qui lui barraient le salut, je dis à lui et à cette multitude avec lui qu'il implique obscurément, car il est de ceux-là qui ne peuvent se sauver qu'en sauvant toute cette masse qui prend leur forme derrière eux. Et déjà, vous lui avez appris le désir. Mais il ne se doute pas encore ce que c'est que d'être désiré. Apprenez-lui que vous n'êtes pas le seul à pouvoir être absent. Liez-le par le poids de cet autre être sans lui si beau qu'il appelle à travers l'intervalle. Faites de lui un homme blessé. Parce qu'une fois en cette vie, il a vu la figure d'un ange. Remplissez ses amants d'un tel désir qu'il implique à l'exclusion de leur présence dans le hasard journalier l'intégrité primitive et leur essence même, telle que Dieu les a conçus autrefois dans un rapport inextinguible. Et ce qu'il essaiera de dire misérablement sur la terre, « Je suis là,
pour le traduire dans le ciel. Et donc il y a ce très beau prologue qui ouvre le soulier et après on entre dans le drame. Mais vous voyez que tout est porté, tout est donné et d'une certaine manière tout est accompli. Voilà, y compris ma causerie de ce soir.